Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous parlez de démocratie parce que l'expression fatigue démocratique fait fleurir. À quoi l'attribuer, Brice?
Eh bien, regardez bien, nous sommes en face d'une situation bien paradoxale. Les électeurs qui ont la chance de pouvoir désigner librement leurs dirigeants au cours d'élections honnêtes, au sein d'une offre politique effectivement plurielle et concurrentielle, manifestent un désenchantement croissant envers la démocratie. L'ouvrage collectif « La démocratie dans l'adversité », récemment paru au CERF, recense les causes et les symptômes de ce qu'on a appelé donc la fatigue démocratique. Or, comme l'écrit l'un des nombreux co-auteurs de ce livre, l'italien Alessandro Campi, les vagues populistes de nature diverse qui secouent les fragiles édifices de nos démocraties électorales et représentatives constituent moins des causes de leur affaiblissement que des symptômes d'une déception envers ce type de régime. Comme les mouvements antiparlementaristes des années 30, leaders populistes d'aujourd'hui prétendent remettre le pouvoir au vrai peuple dont ils se considèrent comme les authentiques représentants. Mais contrairement aux mouvements totalitaires de l'entre-deux-guerres, ils ne proposent aucune alternative à la démocratie parlementaire. Personne de sensé n'aurait de nos jours l'idée de prôner la dictature fasciste d'une élite nationale émanant de toutes les couches de la société, ni même la dictature du prolétariat censée représentée par son parti d'avant-garde. Non. Contrairement à ceux de l'entre-deux-guerres, les leaders populistes d'aujourd'hui ne prétendent pas liquider la démocratie, mais au contraire l'amender, la perfectionner. Les uns pour la rendre plus juste, d'autres plus efficace, d'autres encore pour reprendre le contrôle, comme ils disent, restituer sa pleine souveraineté à la nation qu'ils estiment minée. Or, en Europe, ces forces impersonnelles censées miner la souveraineté nationale ont une adresse, Bruxelles. L'idée selon laquelle des éléments de cette souveraineté puissent être partagés afin d'en renforcer l'influence passe mal. Le concept de souveraineté européenne peine à convaincre. Cela se manifeste dans la montée régulière du vote eurosceptique lors des élections à travers toute l'Europe.
Alors Brice, trois chercheurs viennent de mettre à jour une carte européenne du vote eurosceptique. Qu'apporte-t-il de nouveau?
Il s'agit de Lewis Dijkstra, de Hugo Pohlmann et de Andrés Rodríguez Posse. Ils viennent de publier en effet une étude portant sur les causes de cette désaffection. Ils estiment que le vote franchement hostile à l'intégration européenne est passé entre 2008 et 2018, de 10 à 18%. C'est donc la proportion d'électeurs qui voudraient que leur pays suive le chemin des Britanniques. Mais de leur côté, le pourcentage des électeurs qui ont voté pour des partis eurosceptiques, mais ne proposant pas l'exit hors de l'UE, est passé, lui, de 15 à 26%. Cela veut donc dire que la désaffection envers l'Union européenne atteint aujourd'hui 44% de l'Union. Terrible avertissement. Mais l'originalité de ce travail, c'est d'avoir privilégié non pas les caractéristiques individuelles de ces électeurs, mais les bassins électoraux particulièrement marqués par le vote pour des partis eurosceptiques. Et il en ressort une carte de l'euroscepticisme. Alors au niveau macro, on voit bien se dessiner deux Europes, celle des nations euro-enthousiastes, Chypre, Malte, la Roumanie, les trois États baltes, l'Irlande et l'Espagne. Et celle des États membres les plus eurosceptiques qui sont l'Autriche, le Danemark et la France. Mais c'est en affinant cette carte de l'euroscepticisme qu'on obtient les résultats les plus intéressants. Parce que si on prend le critère des régions, on voit que l'euroscepticisme se concentre dans le sud du Danemark, dans le nord de l'Italie, le sud de l'Autriche, l'est de l'Allemagne, l'est de la Hongrie et le sud du Portugal. Mais si on affine encore la focale, alors on obtient des résultats encore plus significatifs. Ainsi, si le riche nord de l'Italie et le nord-est, nord-nord-est de la France sont eurosceptiques, on s'aperçoit que les grandes métropoles de ces mêmes régions, Milan, Turin, Lille ou Strasbourg, sont elles favorables aux partis pro-européens. Oui, ce sont les villes moyennes et les zones rurales qui votent eurosceptiques. Ce sont des régions en déclin économique où manquent les opportunités d'emploi qui forment les gros bataillons de l'électorat eurosceptique ou anti-européen. Les métropoles, elles, ne sont pas dans la même situation. Eh bien, cette analyse corrobore celle menée par le géographe Joel Kotkin sur le vote Trump aux États-Unis. Il a fait remarquer en effet que celui-ci tendait à s'accroître à mesure qu'on s'éloignait des deux côtes et des grandes métropoles. L'exemple typique, c'est celui de Chicago. La ville a voté très majoritairement pour Hillary Clinton et lui a apporté ainsi les 20 délégués de l'État de l'Illinois. l'un des rares États du Midwest à avoir basculé démocrate. Mais plus on s'éloignait de la grande ville de Chicago en descendant vers le sud de l'Illinois, et plus la carte électorale devenait uniformément rouge, c'est-à-dire acquise aux républicains. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, pour redresser la barre, concluent les auteurs de cette étude, il faut s'occuper d'urgence des situations de détresse territoriale.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve lundi pour ce qui est du micro, mais demain pour ce qui est du numérique, puisque oui. Chaque vendredi vous publiez votre chronique sur le site de France Culture, Brice.